Bonjour, il est 18h, vous écoutez Radio Campus Paris, nous sommes le lundi 13 décembre et c'est l'heure de la relève.
La relève sur Radio Campus Paris.
Bonsoir, la relève reste fidèle à sa mission, vous faire découvrir les jeunes talents. Ce soir, pendant 30 minutes, on va parler de l'après-fin de l'après du monde d'après. D'effondrement, mais en beauté, du moins, je l'espère. Mon invité est photographe et explorateur, et j'espère qu'il bafouille moins que moi.
C'est pas sûr.
Bonsoir, Romain Veillon.
Bonsoir, merci de m'avoir invité.
On vous reçoit parce que vous publiez, les éditions Albin Michel publient un livre, Green Urbex, dont vous avez signé les photographies. C'est un beau livre, comme on dit. Qu'est-ce que c'est l'urbex pour un non-initié ?
L'urbex, en gros, on va dire que c'est la visite et la photographie de lieux abandonnés. C'est-à-dire tout ce que ça peut être un château, une église, une usine. Donc c'est tous les lieux qui ont été abandonnés par l'homme et où la nature va reprendre le dessus petit à petit.
Green urbex, c'est parce que la nature est déjà là, justement ?
Il y avait un peu de ça, oui, justement. C'est le côté végétation qui petit à petit reprend possession des constructions humaines.
Alors vous, ce qui est particulier, c'est que vous explorez ces lieux-là depuis longtemps déjà,
oui.
Malgré votre jeune âge.
J'ai commencé en 2012.
Donc ce livre. Vous vous rappelez de la première fois ? C'était.
Oui, alors il y a eu plusieurs premières fois. La toute première fois, c'était l'usine de transport de ma grand-mère qui était abandonnée quand j'étais très jeune. Après, comme j'étais à Boulogne, c'était la piscine Molitor qui était juste à côté de mon collège et le château de Rothschild aussi.
Oui, parce qu'avant d'être faite en lieu de luxe, la piscine Molitor a longtemps été un espace plus ou moins abandonné.
Ah oui, complètement abandonné.
Où il y avait des graphes, où il y avait des gens. Bon, je ne sais pas trop ce qui s'y passait parce que moi, je ne suis pas très aventurier, contrairement à vous.
Ah non, il était complètement abandonné jusqu'à la rénovation. C'était un lieu de street art en particulier. Il y avait aussi pas mal de soirées qui se faisaient.
Et qu'est-ce qui vous intéressait dans ces lieux-là ?
Au tout début, c'était vraiment la découverte, redécouvrir des lieux qui ont été inutilisés pendant 10 ans, 20 ans, et essayer de retrouver des traces de vie. Donc là, il y a eu ça. Il y avait aussi la petite ceinture à Paris qui m'avait aidé à commencer. Puis en fait, au début, on en fait un, on en fait deux, et puis on a envie d'en découvrir d'autres. Et on commence en fait à partir le week-end un peu plus loin. On va partir dans le Nord, on va partir en Belgique.
Il y a un peu l'adrénaline aussi d'aller dans des endroits interdits ?
Il y avait un peu ça au début. Avec le temps, ça commence à passer. J'aime moins l'adrénaline, mais oui, il y a toujours le petit problème du gardien, des voisins, du plancher un peu pourri qui peut craquer quand on passe.
Votre livre s'organise en trois parties. Au commencement, l'abandon. La deuxième partie, le pourrissement s'installe. La troisième, la nature prend le dessus. C'est parce que vous voulez décrire tout le processus du moment de l'abandon jusqu'à la ruine complète ?
Oui, voilà, c'est ça. On voulait vraiment montrer avec Albin Michel l'évolution d'un lieu. C'est-à-dire au début, les lieux sont assez propres. Et au fur et à mesure du livre, au fur et à mesure qu'on tourne les pages, le lieu va petit à petit prendre la poussière, les murs vont se fissurer, les planchers vont s'écrouler. Et à la fin, on arrive sur des ruines complètement végétalisées.
On reparlera tout à l'heure du dernier lieu que vous aviez photographié, peut-être un des plus émouvants. Bon, on va attendre un petit peu. Dans ce livre, on trouve donc une sélection de lieux que vous avez explorés au fil du temps. Comment vous les avez choisis ?
Alors c'est des lieux que j'ai photographiés sur 10 ans, donc il y a des lieux qui ont été photographiés, qui ont disparu depuis, et c'était il y a très longtemps, et d'autres c'est beaucoup plus récent, c'était juste après le confinement. Et on va dire que je les ai choisis vraiment de façon esthétique, en double page, pour qu'ils fonctionnent entre eux, que chaque double page en fait se réponde. Et vraiment par rapport à leur histoire, et par rapport à mon ressenti de la visite, ceux qui m'ont vraiment marqué pendant ces 10 ans.
C'est pas forcément les plus spectaculaires, parce qu'on peut avoir cette impression. Est-ce que les photos sont très belles ?
Alors si, il y en a qui sont très spectaculaires, et il y en a d'autres qui le sont moins, mais c'est juste le côté esthétique qui fait que j'avais beaucoup aimé cette photo et que j'avais envie de la partager. Parce que c'est assez compliqué de choisir des photos sur 10 ans, juste pour en prendre 200 à la fin. Il y en a tellement que...
Vous en aviez combien en gros ? Peut-être pas de photos, mais de lieux ?
De lieux, j'en avais 500, je pense.
Ah oui, 500. Ah oui, non. Et au final, il en reste quoi, une cinquantaine qu'on voit
non, bonne 150, je pense.
150 ? Vous êtes un peu loin du micro, pardon.
Et dans le livre, en fait, il y a aussi des focus sur des lieux historiques dont je peux parler d'histoire, parce que soit le lieu a été rénové, soit ouais. Il a été détruit. Donc il y a aussi 9, il y a 13 lieux très spectaculaires dont l'histoire méritait le focus.
Alors en préparant cette émission, j'ai utilisé un moteur de recherche célèbre. Et qui m'a fait rire parce qu'il y a un moment, je suis tombé, vous savez, les questions suggérées quand on cherche. Et il y a quand même des gens qui demandent comment trouver des lieux abandonnés. Alors, je ne sais pas si vous utilisez Google pour le faire. Comment, ou est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des pisteurs, des gens qui vous appellent ?
Ça, c'est la question qu'on me pose le plus. Donc, si, Google, c'est l'outil principal. Google et Google Maps pour regarder...
Vous ne tapez pas comment trouver un lieu abandonné, rassurez-moi.
Non, mais pour trouver l'histoire d'un château, on va taper château Normandie. On va essayer de trouver des indices sur les photos qu'on a déjà vues pour petit à petit, en fait... accumuler les indices qui nous permettent de faire des recherches beaucoup plus précises par rapport à la région, par rapport à l'architecture, par rapport à la forme des fenêtres, par exemple. Et après aussi, aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de, pas de pisteurs, mais d'amis ou de contacts. Ça peut être quelqu'un qui a vu quelque chose en bas de chez lui et qui a bien aimé mes photos et qui va me dire « Ah, vous devrez venir en bas de chez moi, il y a ça comme château abandonné ».
Ah oui, il y en a beaucoup comme ça, maintenant ?
Oui, maintenant, ça arrive, ouais.
Par votre page Facebook et par votre présence et,
oui, par mon site internet.
Et toute votre présence sur les réseaux sociaux.
Ouais.
Et est-ce que pour vous, c'est intéressant d'aller voir un lieu qui a déjà été photographié ?
Il y a moins de surprises, c'est un peu moins sympa à photographier. C'est sûr que la découverte est quand même quelque chose qui est... C'est ce qu'il y a de mieux. Mais il y a toujours quelqu'un qui est passé avant nous. Donc, malheureusement, on fait avec. Trouver un lieu abandonné tout seul... Il y a toujours quelqu'un qui habite à 10 km et qui l'aura photographié. Il y aura toujours un peu des objets qui auront bougé.
Alors, ma question était un peu plus vicieuse. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, on voit sur Facebook des gens qui sont passionnés par l'urbex. Est-ce que vous pouvez voir quelqu'un dire, tiens, ça, le lieu est bien, mais ces photos sont nulles. Et moi, je vais y aller le photographier. Non, mais c'est normal, vous êtes artiste photographe, vous avez un œil, vous avez de la technique que n'a pas forcément... Moi, si demain, je vais dans un lieu comme ça et que je prends une photo avec mon téléphone, est-ce que ça vous arrive ? C'est-à-dire, lui, ce qu'il a fait, c'est pas... L'endroit est pas mal, sa photo est pas terrible, j'irai bien voir.
Je me dis pas exactement ça, mais c'est vrai que des fois, les photos sont prises au portable, mais on voit quand même le potentiel du lieu. Mais après, c'est très à la mode en ce moment, donc un lieu qui a été photographié en septembre, en janvier, il sera plus pareil, il y aura eu du vol, il y aura peut-être eu des changements. Donc en fait, j'essaie de ne pas penser à ça. Quand je visite un lieu, je me dis, je vais essayer de le photographier du mieux possible, essayer de retranscrire l'atmosphère de ma façon, à ma façon, et on verra. Mais non, j'essaie pas de me dire, les lieux bougent tellement qu'aujourd'hui,
c'est... Aujourd'hui, c'est un problème ? Ouais. Le fait que ce soit la mode, c'est si on n'y va pas assez vite
Ouais, maintenant, c'est ce problème. C'est les réseaux sociaux, et je ne vais pas trop critiquer, parce que finalement, je m'en sers aussi. Donc ça fait partie du jeu. Mais oui, aujourd'hui, l'explosion de fans et d'aficionados fait que les lieux ne restent plus jamais comme ils sont et qu'il faut rester assez discret. Ce qu'on prend en photo une année, il faut peut-être le poster un ou deux ans plus tard.
Ah oui, à ce point-là
ouais.
Aujourd'hui, vous rusez comme ça, par exemple.
Il y a des lieux, quand c'est des châteaux meublés, oui. Après, quand c'est des ruines, généralement, les gens s'y intéressent moins.
Ah oui, puisque là, les gens viennent chercher les meubles. Qu'est-ce qui fait un bon lieu pour vous ? C'est un lieu rare qu'on a peu vu ? C'est le caractère monumental ?
Je dirais plutôt que c'est les photos qu'on arrive à en tirer.
Son potentiel esthétique, voilà. Pour vous ?
La lumière qu'on va avoir. Il y a des moments où on va avoir une super lumière, d'autres où la lumière sera moins bonne, le lieu sera très beau, mais malheureusement, les photos ne lui rendront pas hommage. Et donc, c'est vraiment il y aura un peu de chance, vraiment. Venir au bon moment. Ça peut être aussi parce qu'il y a eu de la végétation qui est rentrée dans la pièce. Ça peut être parce qu'il y a tous les objets qu'il y a d'il y a 20 ou 30 ans.
Oui, parce que j'imagine que ce qu'on n'a pas dit, c'est que vous photographiez dans le monde entier. Donc quand vous allez à l'autre bout du monde, il y a intérêt. Si la lumière n'est pas bonne, vous faites comment alors ? Vous attendez plusieurs jours, vous repartez en disant tant pis.
Si elle est vraiment mauvaise, on essaie de revenir. On essaie d'y aller très tôt le matin. Comme ça, si elle est vraiment mauvaise, on peut essayer d'attendre sur place. Si un rayon de soleil qui vient complètement cramer une partie de la photo, oui, là, il faut attendre. Mais bon, quand on est au Portugal, par exemple, ou en Italie, il fait beau toute la journée, il n'y aura pas un nuage, c'est assez compliqué. Alors, essayez de venir très tôt le matin ou très tard le soir, quand justement le soleil est plus dans la pièce.
Et par exemple, par rapport à la végétation, j'imagine que vous recherchez plutôt la période où elle est luxuriante, pas quand les arbres sont morts.
Voilà, si c'est des photos de végétation, il vaut mieux venir commencer à y aller en mai, juin, quand ça recommence à pousser. Et à partir de septembre-octobre, ça dépend des pays. Par exemple, l'Italie, en septembre, c'est déjà trop tard. Là. Tout a cramé pendant l'été. Donc, faut savoir, oui. L'Italie, c'est mai-juin. La France, ça sera un peu plus tard. C'est un pays plus vert. Donc, en septembre, ça sera toujours...
Ah oui, c'est un vrai métier, une vraie organisation. Est-ce que, attention, c'est une grosse transition et j'arrive avec des énormes sabots. Est-ce qu'Indiana Jones faisait partie de vos héros quand vous étiez petit ? Autrement dit, est-ce que vous vouliez être archéologue ?
Oui, il faisait partie de mes héros. Après, je ne voulais pas être archéologue. Mais c'est vrai que sa fameuse phrase, sa place est dans un musée, ça, aujourd'hui on y pense souvent. Quand on voit tous les objets qui sont dans ces lieux, dont certains méritent d'être dans des musées, il y a une vraie résonance avec lui.
On va parler d'archéologie.
Une nouvelle découverte exceptionnelle à Pompéi. Une chambre d'esclaves a été mise au jour cette semaine par des archéologues italiens. Dans un état de conservation exceptionnel, elle donne à voir ce que pouvait être la vie de deux esclaves adultes et d'un enfant au service d'une riche famille qui l'hébergeait. C'est un aperçu exceptionnel de la vie et du travail quotidien d'une partie de la population antique, peu connue des sources officielles qui se penchent presque toujours sur les élites. Dans le cas présent, nous assistons à la vie d'esclaves, de serviteurs, des personnes d'un statut social très bas. Les archéologues pensent malheureusement que cette chambre a déjà été visitée par des pilleurs. Les explorations sauvages et les pillages de tombes aux alentours de Pompéi se sont multipliés ces dernières années. L'équipe de chercheurs a également mis au jour les restes de deux hommes, vraisemblablement un maître et son esclave, qui ont été asphyxiés par les cendres volcaniques alors qu'ils tentaient de s'échapper. L'éruption du Vésuve a eu lieu il y a près de 2000 ans et son nuage de cendres a recouvert de nombreux sites encore inexplorés.
Voilà, c'était un extrait du journal de Euronews, de novembre 2021. On est toujours avec Romain Veillon, auteur de Green Urbex et Albin Michel. Photographier Pompéi, ça vous plairait ou c'est trop évident? Trop évident.
Alors, j'y suis allé, j'ai vraiment adoré la visite. J'ai trouvé
un
ça
lieu
sublime.
Magnifique. Oui.
Et avec autorisation, pourquoi pas, oui. Après, en tant que touriste, sans trépied, non, pas beaucoup. J'ai pris des photos, comme tout le monde, j'ai pris des photos portables pour le souvenir.
Par rapport à votre travail qu'on voit dans le livre La Green Urbex chez Albin Michel, il y a la nature qui triomphe. La nature, elle est quand même encore tenue à distance.
C'est vrai.
Ça ne vous embête pas ce côté un peu, je sais pas comment dire, ruine figée qui ne vit plus. Enfin, c'est bizarre ce que je dis.
Non, ça m'embête pas du tout. Mais par contre, dans mon livre, même s'il y a certains lieux qui sont quand même assez un peu connus du grand public, comme Buzulza en Bulgarie, par exemple, qui a été visité pas mal de fois, j'essaie quand même de présenter des lieux uniques que les gens n'ont pas vus, en fait, comme un espèce de musée imaginaire. Que ce soit Pompéi ou encore, par exemple, c'est des très beaux lieux, mais je ne sais pas si ça rentre dans ce domaine où il y a quand même un petit peu le mot interdit et unique qui rentre en jeu.
Alors, Buzulza, ça fait partie des lieux sur lesquels je vais vous faire parler. Je ne savais pas qu'il était connu, non, mais c'est pour ça, ça m'étonne. Et c'est un ancien lieu de conférence du Parti communiste bulgare, c'est ça, hein?
Voilà. Bon, il a servi 3 ou 4 fois, je crois. Donc, en fait, ils ont mis 30 ans à le construire.
Les photos sont incroyables parce que.
Ben merci, ouais, non, c'était une salle de conférence. Ils ont mis 30 ans à la construire. Ils ont dépensé un argent monstre. Et elle a servi 3 fois, il y a eu la chute du communisme, et du coup, en fait, elle a été pillée le lendemain, voire le soir même. Ils ont enlevé les mosaïques du président bulgare, ils ont pris le cuivre.
Oui, c'est ça, il reste les autres autour, si je me souviens bien, mais ils ont retiré le président.
Voilà, lui...
Enfin, il y avait peut-être quelques
raisons. Il n'a pas traversé le temps, lui.
Mais de la même façon, vous avez été photographié de Tchernobyl.
Oui. Alors voilà, ça c'est très connu aussi, ouais. C'est un lieu touristique, parce qu'on paye, on paye un guide qui nous emmène dans ces... Qui nous promène en fait dans Tchernobyl, dans Pripyat d'ailleurs, il faut dire. Tchernobyl est la ville qui n'est pas abandonnée, où des gens vivent encore, et Pripyat est la ville abandonnée.
Quel est le lieu qui vous a le plus surpris de tous ceux qu'on voit, enfin dans le livre ou d'ailleurs qu'on ne voit pas dans le livre?
Le plus surpris? Le casino de Constanta. Je n'avais pas vu de photos auparavant de l'intérieur, hors des photos d'époque.
Alors c'est où d'abord?
Constanta, c'est en Roumanie. Sur la mer Noire, pardon. Et c'est un casino, c'était le casino le plus beau que j'ai jamais vu. Et c'était le casino où toute la bourgeoisie de l'époque se retrouvait l'été. Et allait faire la fête là-bas pendant des semaines. Et l'architecture est la plus belle que j'ai jamais vue aussi.
Et aussi l'intérieur?
Oui. Il y avait encore la salle de bal, il y avait l'escalier, il y avait encore tous les lustres. Les lustres phénoménaux qui sont immenses. Et il y avait encore tout. C'était, le lieu n'a pas été dégradé, il était gardé. Donc c'était une de mes plus grandes surprises.
Allez-y.
Non, vraiment, rentrer quand on n'a pas vu le lieu avant, un lieu aussi beau, on se dit, mais ça existe encore, ce genre de lieu?
J'allais vous poser ma question aux frontières du réel. Est-ce qu'il y a une vibration particulière quand on rentre dans ces lieux-là, ou vous êtes quelqu'un de très terre-à-terre et voilà, c'est beau et puis on ne va pas non plus
en faire... Je suis assez terre-à-terre. Après, c'est vrai que quand on visite des prisons abandonnées, forcément, il y a une espèce de résonance avec les gens qui ont passé des années, voire des dizaines d'années dans ces lieux. Et on imagine, et quand on est seul, on peut vite se prendre au jeu. Cette
un
espèce
peu
de présence.
Psychoté, comme on disait quand moi j'étais jeune. Je ne sais pas si on dit encore ça aujourd'hui. Je crois que plus personne dit ça.
Je disais ça aussi. Psychoté, oui, pour certains, moi, peut-être pas. Mais
est-ce qu'il y a des fois. Alors, par ailleurs, est-ce que des fois, quand on est dans certains lieux, on n'a pas peur, mais en tout cas, on a un petit coup. On en parlait un peu tard d'adrénaline parce qu'on.
Ouais, alors moi, j'ai plutôt peur par rapport au plancher qui s'effondre. Parce que je suis assez grand et je suis assez lourd. J'ai peur du.
Fort, c'est tout.
J'ai peur du voisin, j'ai peur du gardien avec un fusil peut-être, mais non, j'ai pas peur.
Des chiens, des trucs comme ça.
Bon, j'aime bien les chiens, ça.
Bon, ça va. Vous ne touchez à rien, vous? Vous prenez la photo telle qu'elle est? Parce qu'il y a par exemple un château en Haute-Garonne, on a l'impression qu'ils viennent de sortir, dans le livre, on a l'impression qu'ils viennent de sortir de la maison, qu'ils vont revenir. Il y a quasiment un livre ouvert, je crois, si je me souviens bien.
Ah oui, je vois le château dont vous parlez, oui. Oui, malheureusement.
Là, c'est pas vous qui avez mis en scène, non, c'est vraiment comme
ça. Non, c'est comme ça. Après, je pense qu'il y a aussi des photographes avant moi qui ont mis en scène.
Ah oui, ça, vous savez pas si les gens sont déjà passés.
Et je sais par contre aussi qu'il a été pillé par certaines personnes aussi.
Quand je demandais vous touche à rien, c'était pas est-ce que vous emmenez des choses, c'était est-ce que vous mettez des choses en scène.
Oui, j'ai compris, mais c'est aussi pour dire que malheureusement, ce genre, parce qu'il ressemble vraiment à un musée, et ça devrait être un musée, mais des gens sont venus, ils ont pris des objets, d'autres sont venus, ils ont pris des objets, ils les ont posés sur des tables pour faire une petite mise en scène. Non, moi j'essaye vraiment de rester très fidèle à ce que je vois. À la limite, la mise en scène, c'est que j'enlève, si je vois des emballages de coca ou des cigarettes, j'essaye de faire en sorte que ce soit un peu propre, mais sinon, non, je touche pas aux objets.
Dans ces endroits, là, Tchernobyl, je n'arriverai pas à le dire, je vais réessayer, mais c'est pas grave.
Buzz,
voilà. On sait pourquoi ces lieux ont été abandonnés, il y a l'histoire. Il y en a d'autres, ça vous essayez de savoir, parce qu'on est très étonné qu'il n'y ait plus personne. Il y a des endroits tellement beaux, il y a Château qui est sur une île, par exemple. Où il y a aussi, alors je crois qu'il a été repris, il y a des thermes qu'on voit tout au début de votre livre, des thermes magnifiques qui étaient abandonnés.
Dans les thermes, il y a un projet d'hôtel 5 étoiles qui est en cours. Je crois qu'il a été un peu retardé pour le Covid. Le château, c'était en Irlande, je crois. Je crois que le propriétaire était fou, il a tout fait brûler. Et après, non, effectivement, il y a des lieux où on aimerait bien avoir l'histoire, mais on ne l'a pas, en fait. C'est juste parce qu'il y a eu un drame personnel, généralement. Et là, je trouve qu'on rentre un peu dans l'intime, et j'aime pas généralement fouiller.
Vous n'allez pas chercher dans ça.
C'est généralement quand il y a des problèmes des problèmes d'héritage, ça peut aussi être parce que la famille est morte dans un accident de voiture.
Ouais.
Et l'héritier n'est pas intéressé pour reprendre le lieu. Et voilà, petit à petit, tous ces souvenirs se retrouvent à pourrir et à disparaître.
Votre livre, dont je redonne le titre, Green Urbex, chez Albin Michel, vous appelez Robin Veillon, voilà, je l'aurais dit, est préfacé par Sylvain Tesson et pas par un photographe. Alors, c'est vous qui avez fait le choix d'un écrivain ?
Oui.
Pourquoi ?
Et parce que le livre s'est fait grâce à Sylvain Tesson. J'étais présent à sa dédicace il y a maintenant...
Vous n'aviez pas envie, vous, de faire de livre ? Vous n'y pensiez pas ?
Ah si, je cherchais depuis longtemps. Pour mon deuxième livre, en fait, je cherchais un éditeur français, parce que le premier était avec un éditeur anglais. Donc là, je voulais que ça soit en français. Et je cherchais depuis longtemps, et en fait, c'est par hasard, en allant à sa dédicace, que je lui ai parlé d'endroits abandonnés, parce que dans ses livres, il en parle souvent. Et il m'a parlé d'un de ses amis qui travaillait chez Albin Michel, et voilà, grâce à lui, en fait, le...
Et donc, du coup, il a préfacé le livre.
Et voilà, il a accepté de faire la préface un an après.
Quand vous visitez ces lieux, c'est dans le silence ou...
Oui.
Et bien là, vous allez écouter de la musique, ça va vous changer. C'était la pire transition de ma vie, je crois.
Une nouvelle découverte exceptionnelle à Pompéi.
C'était November Ultra, le manège.
La relève sur Radio Campus Paris.
Et on est encore pour une petite dizaine de minutes avec Romain Veillon, auteur de Green Urbex. Chez Albin Michel, on va parler un peu de vous, Romain. Qu'est-ce qui vous a d'abord intéressé, la photographie ou l'exploration ?
L'exploration.
Comment vous êtes venu à la photo ? Parce que vous, vous avez expliqué tout à l'heure que vous alliez voir la piscine des Lignes,
En fait, un peu comme tout le monde qui commence au début, j'étais pas au portable, mais j'avais un petit appareil photo et on fait des photos pour amener un souvenir en reportage. On ne s'intéresse pas vraiment à l'esthétique. Et c'est le fait, en fait d'être avec des amis qui, eux, faisaient des photos un peu plus poussées. On se dit, moi aussi, j'ai envie de revenir avec des photos plus jolies. Et du coup, on s'achète un appareil un peu plus sympa. On s'achète un trépied, puis on s'intéresse. On essaie de dire, tiens, mais j'aimerais bien retranscrire ce qui s'est passé dans cette pièce, la lumière qu'il y a. Et en fait, c'est vraiment, j'ai appris sur le tas petit à petit. Les premières photos, j'en suis pas fier. C'est vraiment des photos de portable, encore.
Ah oui. Vous, qui sont les photographes, qui sont ceux qui vous inspirent, ceux que vous aimez, j'ai cru voir sur votre page Facebook que vous aimez bien Helmut Newton. C'est pas vraiment le même univers.
Non, c'est pas le même univers.
Puis c'est pas du tout le même travail. C'est la photo très posée, très travaillée.
Ouais. Après, je veux pas être très original. C'est Salgado, c'est Vivian Maier. Et il y a pas. Si j'aime beaucoup Polidori en fait en architecture, mais en photographie, j'aime tous les styles. Et je m'intéresse pas forcément à exactement ce que je fais. Dans les photographes actuels qui font des lieux abandonnés, j'aime beaucoup Marchand MF aussi. Mais c'est en art généralement, je suis très
très éclectique. Ouais. On n'en a pas du tout parlé. Est-ce qu'on peut dire que votre livre est un livre politique ? Est-ce qu'il y a un message qui est de dire attention, si on ne surveille pas ce qu'on fait, voilà comment tout ça va finir ?
Alors, je ne dirais pas politique, mais oui, il y a un message écologiste. Je ne voulais pas en fait donner une leçon, je ne voulais pas demander aux gens de faire quelque chose, mais je voulais juste dire, voilà, les photos que vous allez voir dans ce livre, c'est le monde, c'est le monde en fait, qu'on pourrait avoir si on continuait à traiter la planète de cette façon. Petit à petit, en fait, la sixième extinction de masse n'est pas si loin. Elle peut arriver, elle commence à être de moins en moins hypothétique. Et voilà, le monde ressemblera à ça. Et je donne des exemples, mais j'essaye de ne pas donner de leçons, en fait. Mais oui, il y a un message vraiment écologiste.
Mais est-ce que... Il y a un message. Est-ce que qui a à voir avec les... Oui, et en même temps, c'est très beau. C'est ça qui, moi, je trouve très paradoxal dans votre livre. C'est qu'en même temps, ces lieux qui sont rendus à la nature sont magnifiques. Et pourquoi pas, quoi.
Bah oui, et en plus, je donne plusieurs exemples. Mais par exemple, il y a Tchernobyl ou alors la petite bordure, en fait, entre les deux Corées, la frontière entre les deux Corées, où on se rend compte que la présence humaine a vraiment abîmé la planète. Mais dans ces endroits-là, il n'y a plus de présence humaine pendant 30 ans. Et la nature n'a pas seulement repris le dessus, mais elle s'est améliorée. Et les animaux en fait, se reproduisent, des espèces qui avaient disparu reviennent. Et on se rend compte qu'en fait, c'est la présence humaine, même après une catastrophe nucléaire, qui fait du mal à la planète.
On en a un peu parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous touche, quand vous parliez notamment des prisons, je pense à ça, qu'est-ce qui vous touche le plus dans ces images, d'imaginer ce qu'ont été ces lieux, parce qu'on y pense forcément quand on les regarde, on imagine la vie, moi je parlais de vibrations de façon un peu ésotérique, mais en tout cas il y a quelque chose, on imagine en tout cas, je ne sais pas si on sent, mais on imagine quelque chose, ou c'est de savoir ce qu'ils vont devenir et finalement de rappeler, comme on disait au grand siècle, la vanité de toutes choses.
Moi personnellement j'aime beaucoup en fait me demander comment était le lieu quand il était habité, j'aime bien en fait essayer de voyager dans ma tête et de faire une enquête, me dire tiens voilà ça c'était la chambre des parents, ça servait aux chevaux, c'était les écuries. En fait j'aime bien essayer de faire comme une enquête pour retrouver comment fonctionnait le lieu. Ça c'est ce qui me passionne le plus. Et après les photos en fait le côté genre qu'est-ce qui va devenir, j'y pense pas quand je suis sur le lieu. Mais quelques années après je suis content de voir que certains lieux sont repris par soit des passionnés, soit des collectivités qui décident de le rénover. D'en faire un hôtel, d'en faire un lieu de vie.
On a inventé un mot pour ça que j'ai oublié, c'est un mot nouveau. Est-ce que vous faites partie de cette jeune génération qui est angoissée par le futur, par l'idée de destruction, de disparition de la vie?
Oui, j'ai entendu ce mot, mais je l'oublie aussi.
Je crois que je ne suis pas sûr, donc je ne vais pas le dire.
Oui, un petit peu. Mais eux, c'est pour la planète en général. Mais moi, c'est quand je vois des lieux comme ça, petit à petit, en fait, être tous détruits, de voir que certains lieux sont même plus sauvables. Oui, je suis toujours un peu triste de voir qu'on n'arrive pas à sauver ces lieux, que ce soit en France ou partout dans le monde d'ailleurs.
On parlait à l'instant de Sylvain, enfin vous parliez avant la pause musicale de Sylvain Tesson qui signe la préface de ce livre et donc qui fait plus que signer la préface de ce livre, qui l'a aidé en tout cas à être, et on peut le remercier. Il utilise une très belle expression pour parler de votre travail. Il parle de la douceur cruelle des rêves évanouis. Vous trouvez que ça résume bien ce que vous faites ?
Oui, très bien, j'aurais pas trouvé de mots aussi beaux.
Il y a quelque chose de cruel dans tout ça ?
Oui, forcément.
Le temps qui passe.
Forcément, quand on voit ces lieux, on imagine ce qu'ils ont été et ce qu'ils ne pourront plus jamais être. Les rénovations ne peuvent pas tout sauver. Et aussi, pour qu'un lieu soit beau abandonné, il faut qu'il soit beau de son vivant. Et aujourd'hui, est-ce qu'on construit encore des lieux vraiment beaux ?
Ouh là là. Puisqu'on parle de rêves évanouis, je voulais savoir, vous avez encore des rêves, vous ?
Oui. Peut-être pas en photographie, mais si, en photographie, non, il y en a toujours. J'aimerais partir plus loin, j'aimerais pouvoir consacrer plus de temps à ça. Mais voilà, petit à petit, je les accomplis un an.
Vous continuez à explorer ce genre de lieu ou vous avez envie de photographier d'autres choses maintenant ?
Je continue, mais c'est vrai qu'à terme, en fait, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très très chronophage. L'urbex, c'est partir au fin fond de Bulgarie ou partir même en Asie, ça prend du temps, ça prend beaucoup d'argent et je peux pas faire que ça. Mais non, photographie, c'est ce qui me plaît le plus. Donc je resterai là-dedans.
Est-ce que vous pouvez me parler de, c'est toujours des problèmes avec les noms propres, moi, de Kolmanskoïe, un endroit incroyable, donc qui est celui de la fin, comme la fin de l'émission arrive à sa fin.
Kolmanskoïe, c'était une ville minière en Namibie. Donc c'était un des premiers filons de diamants qui a été trouvé. Donc des colons allemands s'y sont installés. Après, des colons du monde entier les ont rejoints. Il y avait à peu près 5000 personnes. Et voilà, c'était une petite ville qui marchait très bien. Ils trouvaient beaucoup de diamants. Ils faisaient venir leur champagne de Reims. Ils faisaient venir leur eau d'Afrique du Sud. Elle faisait plus de 1000 km pour venir.
L'eau ?
Ouais, l'eau. Ah ouais. Oui, ils avaient une piscine, en fait. Une piscine qu'ils n'utilisaient pas, mais qui était là juste pour laver les pierres et trouver du diamant. Et en fait, du jour au lendemain, ils ont trouvé un filon beaucoup plus intéressant au sud. Puis ce filon-là s'est épuisé, donc ils sont partis, mais vraiment du jour au lendemain, comme dans les vieux Lucky Luke. Ils ont laissé la ville complètement vide. Et petit à petit, en fait, le sable s'est déplacé, ce qui se déplace de 2 cm par an, je crois. Et il a commencé à remplir chaque pièce de cette ville. Donc on se retrouve avec une espèce de mer de sable dans chaque pièce.
Cette ville, elle est grande comment ?
Ouais, on la traverse en à peu près 4 minutes à pied.
Ah oui, donc il y a des maisons effondrées parce que les photos sont incroyables. Hein. On voit par la fenêtre les dunes dans les maisons.
Ah oui, non,
les en plus, géométriquement, ça fait des photos magnifiques.
Ouais. Ah, c'est ça pour la symétrie, pour le côté irréel et l'atmosphère. Non, il n'y a pas. Je trouve que c'est le lieu qui m'a le plus impressionné depuis toujours. Et je rêve d'y retourner pour continuer ma série pour montrer l'évolution du sable. Tous les bâtiments sont abandonnés à part 2 ou 3 qui ont été rénovés pour accueillir les touristes, je crois, au tout début. Mais par exemple, quand on va dans la toute fin du village, il y a une école et complètement sous le sable.
Et ça, c'est un endroit qui est connu que.
Oui, c'est un endroit touristique.
Qu'on vous avait signalé et que.
J'avais vu dans National Geographic et je me suis dit, j'ai toujours voulu y aller. Et un été, j'ai du temps. Hop. Voilà, je vais enfin faire mon rêve. Et je pense que j'ai pas photographié de lieu plus magique et plus photogénique que celui-là.
Vous allez repartir bientôt, là, faire des photos ?
Oui. Avec le Covid, c'est assez compliqué d'aller loin, de prévoir, parce que tout peut être annulé. Donc, en ce moment, j'essaie de ne pas aller trop, trop loin.
Ah oui.
Donc, ça reste beaucoup les régions françaises, l'Irlande.
Il y a encore des choses à découvrir en France ?
Oui. Vous avez il y en aura toujours.
Bon.
il y aura l'Irlande, il y aura le Portugal, l'Italie et les pays de l'Est, toujours, qui ne sont pas trop, trop loin.
Très bien. Merci beaucoup, Romain Veillon.
Merci à vous.
Je rappelle que vous avez publié Green Urbex chez Albin Michel. Voilà, c'était La Relève préparée et présentée par Christophe. La réalisation était assurée par Nicolas. Vous pouvez retrouver l'émission et toutes les précédentes ou presque sur le site web de Radio Campus Paris, rubrique La Relève. À 19h, vous retrouvez la matinale. Elle est présentée ce soir par Anaïs et on y parlera d'intelligence artificielle. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de La Relève. Bonne soirée sur Radio Campus Paris. Au revoir.